Bonjour à chacun. Ce matin, nous avons déjà lu le chapitre 3 de Philippiens et je vous invite à ouvrir à nouveau la parole de Dieu dans ce texte pour l'avoir sous les yeux. Nous avons commencé l'épître aux Philippiens il y a déjà deux dimanches. L'épître de la joie. Une épître qui commence avant l'épître, j'ai envie de dire. Lorsque Paul arrive dans la ville de Philippe pour témoigner, pour évangéliser, et que les autorités de la ville l'attrapent, le fouettent, le mettent en prison, et là, en prison, il chante en pleine nuit les louanges du Seigneur. Comment quelqu'un qui vient de recevoir le fouet, qui est emprisonné, est capable de conserver dans son cœur une joie que personne ne peut lui enlever et qui le pousse à chanter les louanges du Seigneur. Eh bien, c'est aux Philippiens que Paul écrit abondamment au sujet de la joie. Il y a deux dimanches, nous avons vu la joie et la souffrance. Dans la souffrance, malgré la souffrance. Et puis, le chapitre 2 et 3 nous lance dans deux choses fondamentales que l'âme humaine recherche. Le chapitre 2, nous l'avons vu, on recherche le bonheur. Est-ce qu'on recherche le bonheur ? Est-ce qu'on tâche d'être le plus heureux possible dans notre existence ? Oui. Et nous sommes au cœur du sujet de la joie. On va y revenir. Et puis aujourd'hui, dans le chapitre 3, une deuxième chose fondamentale de l'âme humaine, c'est la recherche d'un sens à son existence. D'une part, la recherche du bonheur, on cherche à être heureux, mais ça ne suffit pas pour l'âme humaine. On cherche aussi pourquoi on vit, pourquoi on existe, un sens qui parce que nous sommes des gens qui avons une raison, une intelligence, une âme, des émotions. On cherche un sens, une raison. Et on la poursuit. Pourquoi est-ce qu'on court ? Pourquoi est-ce qu'on traverse cette existence terrestre, cette course de la vie ? Qu'est-ce qui nous motive ? Alors, c'est vrai que ce qui peut nous motiver, c'est d'accomplir des choses. Devenir quelqu'un, obtenir, avoir. Et nous avons donc, comme ça, en tant qu'être humain, des ambitions, des buts. J'ai envie de dire des rêves à atteindre. Et on connaît cette chanson de Jean-Jacques Goldman, « J'irai au bout ». De mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. Avant de rentrer dans ce sujet-là et d'évoquer avec vous évidemment le mariage du prince Harry et de la princesse Meghan qui a eu lieu hier, pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'aimerais rappeler, pour bien comprendre la suite, quelque chose dont nous avons parlé la semaine dernière. Nous avons dit on recherche le bonheur. Et nous avons parlé du noyau dur de la joie et puis des joies satellitaires. Paul qui disait « Complétez ma joie ». Quelle joie ! Et on avait anticipé sur ce chapitre 3 qui commence en disant « Au reste, mes frères, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Voilà, le noyau dur de la joie, et il va le répéter au chapitre suivant, etc. Je vous le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Si je peux chanter en prison, dit Paul, Si maintenant que à Rome aussi, je suis encore en prison, il fréquente beaucoup les prisons, Paul, eh bien malgré tout, ça n'enlève pas ma joie, c'est parce que mon noyau dur de la joie, il est stable. Et comment est-ce qu'il peut être stable? Mais parce qu'il est en Dieu. Et le problème de l'être humain coupé de Dieu, c'est que la place et la joie que Dieu devrait prendre dans sa vie, c'est une place laissée vide. Et comme c'est vide, il faut remplir, parce que la nature a horreur du vide. L'âme humaine a horreur du vide. Et on veut être heureux. Alors, ce qui se passe, c'est que on prend les joies satellitaires, ce que j'ai appelé les joies satellitaires, l'amour, une vie de couple, les enfants, un bon travail, une bonne rémunération, une bonne santé, des vacances, des voyages, une carrière, des réalisations, toutes choses qui peuvent nous satisfaire, nous procurer de la joie. Et toutes ces joies satellitaires, on essaye de les attraper, de les réunir pour en former un noyau dur. Comme le noyau dur de notre joie n'est pas stable en Dieu, quand on est coupé de Dieu, et bien l'être humain, il essaye de, comme c'est vide, il essaye d'agripper et d'amalgamer, j'ai envie de dire, ces joies satellitaires de l'existence. Le problème, c'est que c'est pas du noyau stable. Ça bouge dans tous les sens, ça a une tendance à s'échapper. Alors, la santé, c'est fragile, le travail, c'est fragile, l'amour, c'est fragile. Oh là là, toutes ces joies satellitaires, elles ont une tendance à nous filer entre les doigts. Oui ou non? Alors, on essaye de les contenir, de les agripper, de les maintenir, d'en attraper une autre. Hop, celle-ci m'a échappé, bim. Oh, il faut absolument que je me retrouve une. Ouh. Quel esclavage. Et nous avions vu que pour être libéré de cet esclavage, de cette quête du bonheur, de la joie, il y a un miracle que Dieu nous propose en Jésus-Christ. C'est que le Seigneur devienne le noyau dur de notre joie. Et les joies satellitaires, elles vont trouver leur juste place. J'avais pris cette image du satellite, pourquoi ? Parce qu'un satellite tourne autour d'une masse. Il faut une masse stable. C'est la loi de la gravitation, c'est la masse qui va permettre au satellite de graviter. Et s'il n'y a pas cette masse au centre stable, ça ne gravite pas autour, ça fuit. Ce sont les étoiles filantes. Et il y a des joies comme ça qu'on... Oh, une étoile filante, c'était bien, mais elle s'est passée vite. Une joie stable par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Amen. Alors, maintenant, le sens de l'existence. Pourquoi je cours? Mes rêves, mes ambitions, mes buts. Hier, au mariage d'Harry et Meghan, il y avait du beau monde. Et dans cette église, alors les enfants, à un moment, croyaient qu'en fait, n'importe qui pouvait rentrer. J'ai dit, ça marche pas comme ça. Eux, ils sont dehors. Je te garantis que tous ceux qui étaient dans cette église, ils ont été triés sur le volet. Et chacun de ceux qui étaient là-dedans dit « moi j'y étais. Je suis quelqu'un quand même, hein ?» Alors on a vu George Clooney, on a vu Elton John, on a vu David Beckham, des gens ont vu, des gens qui ont réussi, et puis d'autres plus anonymes, mais qui, chacun à leur niveau, ont une place dans la société anglaise ou américaine ou autre. Du beau monde. Et Paul nous dit la même chose. Il dit, moi aussi, je faisais partie du gratin. Moi aussi, j'étais au mariage de Harry et Meghan, nickel, ticket d'invitation, autrefois. autrefois en Israël, moi, attends, j'étais quelqu'un. Moi, c'était pas le foot, c'était pas la politique, c'était pas la chanson. Moi, mon créneau, c'était la religion, il dit Paul. Voilà, moi, dans les personnages religieux, j'ai été pas mal placé. J'avais du prestige, j'étais en vue, j'avais un palmarès, j'allais au bout de mes rêves, hein. Ah, j'ai couru, hein. On court tous. Pour donner un sens à notre existence. Et Paul, lui, avait choisi le créneau religieux. Peut-être certains, comme hier, ils expliquaient à la télé, hein, rêvent peut-être un jour de devenir archevêque de Canterbury. Parce que l'archevêque de Canterbury, là, tu es arrivé au sommet. Dans l'église anglicane. Eh bien, Paul, peut-être que dans son palmarès et dans ses ambitions, il était bien placé pour devenir souverain sacrificateur. Peut-être. Admettons, hein, un exemple. Bon, je ne sais pas s'il était de la bonne tribu, ça, je ne crois pas. Mais bon, comprenez l'idée. Et puis, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il dit, ces choses, au verset 7, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue. Comme de la boue. Paul est passé par une conversion de ses rêves, de ses ambitions, de ses objectifs, du sens de son existence. Une conversion. J'ai rappelé tout à l'heure le sujet de la joie, n'est-ce pas ? Parce que là aussi, il y a une conversion. Il s'agit, en tant qu'être humain même qui ait trouvé Christ, de renoncer à cet amalgame, à cet ersatz de noyau dur de joie constitué en fait de joie satellitaire que j'ai amalgamé, agrippé. Et le Seigneur me dit, ouvre les mains et lâche-les, ne t'y agrippe pas, et laisse-moi remplacer ce vide par ma joie. Il y a une conversion à opérer au niveau de cette quête du bonheur pour le chrétien. Une conversion de nos pensées, de notre état d'esprit, une prise de conscience de dire, ma joie, stop. Je vais arrêter de continuer de courir comme j'ai toujours fait pour agripper les joies satellitaires et les serrer en noyau dur. Ça, j'arrête. Je vais apprendre à me réjouir dans le Seigneur. Que le Seigneur constitue ma joie, ce noyau dur. Et c'est une conversion. C'est une conversion. Un demi-tour, un changement radical. On ne fonctionne plus du tout sur la même base, sur le même principe en ce qui concerne notre recherche de la joie, du bonheur. C'est radicalement opposé. Dieu était absent et donc je prenais les choses du monde et de la terre pour essayer de combler. Stop ! Il y a une conversion, un demi-tour. Maintenant, Christ est dans ma vie. Et je vais lui donner et cultiver ce noyau dur de la joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et les joies satellitaires, elles vont retrouver leur juste place. Paul dit, attention, moi, quand elles sont là, je me réjouis. Je suis content qu'Épaphrodite ait guéri. Je suis content. Et je me réjouis. Ça, ça complète ma joie. Ça se rajoute au noyau dur de ma joie, cette joie satellitaire. Et je ne vous cache pas, moi, qui hier, c'était pareil. Hein. Cette semaine, ma nièce de 16 ans s'est faite opérer du cœur. Mercredi, je crois qu'elle n'est toujours pas réveillée, hein. c'est compliqué. Hein. Et hier avant-hier, donc, elle avait une infection. Donc, voilà. Et hier matin, le téléphone sonne à 8h du matin en numéro caché. Alors ça, en général, à 8h du matin en numéro caché, c'est ma mère. Et je me dis, pourquoi elle m'appelle ? Et tout de suite, je me suis dit, mince, c'est pour m'annoncer une mauvaise nouvelle à propos de ma nièce. C'est pourquoi elle m'appelle ce samedi matin à 8h ? J'ai eu peur de répondre. Enfin, bon, du coup, j'ai loupé l'appel. Et puis finalement, il y a un message sur le répondeur, ils disent « Oui, c'est le technicien de Orange. » Bon, ah, une joie satellitaire. Voilà. Bon. Et Paul savait se réjouir que Épaphrodite ne soit pas décédé. Hein, parce qu'il était proche de la mort, il n'est pas mort. Il savait se réjouir d'un apport financier supplémentaire. Il savait se réjouir des joies qui sont là. Mais qu'elles soient là ou qu'elles ne soient pas là, ça ne changeait rien au noyau dur de sa joie. Ça ne changeait rien. Parce qu'il y avait une conversion. C'est pareil pour le sens de notre existence. Il faut une conversion. Alors nous allons voir un petit peu les expressions. Et nous voyons un petit peu le contraste au verset 19. Déjà au verset 18, il dit « Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. » Vous avez remarqué le terme « marcher ». Tout à l'heure, c'était « courir ». Au verset 17, il dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez des regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » On va y revenir. « Selon l'état d'esprit. » Il dit « Mais ceux-là, ils marchent en ennemis de la croix. » Et au verset 19, il dit « Leur fin sera la perdition. » Écoutez bien là. « Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Ça, ça nous aide à comprendre la conversion qui a opéré dans le sens de notre existence, dans ce qui nous motive. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Tiens, mais le verset 20 dit, mais nous sommes citoyens des cieux. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, mais nous sommes citoyens des cieux. Mes objectifs, mes rêves, mes... chez et calqué de... en pâtisserie, pourquoi pas. Devenir, que sais-je, nos rêves. Paul, il dit, ah non, moi ça a changé. Moi avant c'était comme ça, moi j'étais dans ce créneau-là, hein, normal, comme n'importe quel être humain, qui n'a pas opéré une conversion du sens de son existence. Il dit, mais maintenant ça c'est fini. Il dit, moi, au verset 12, je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours pour Jésus-Christ. J'aimerais illustrer cela par l'exemple d'un athlète dont la plupart connaissent l'histoire, puisque nous parlons de course. Un athlète qui courait d'abord pour Jésus. Il s'appelle Eric Liddell, c'était un Écossais. Et en 1924, il y avait les Jeux Olympiques à Paris, c'était à Colombes, Jeux Olympiques. Et cet Écossais s'était entraîné longtemps pour le 100 mètres, pour remporter la course royale du 100 mètres. Cet Écossais était né en Chine parce que ses parents étaient missionnaires en Chine. Et c'était un chrétien convaincu, fervent. Mais bon coureur! Alors les Jeux Olympiques, remporter la médaille d'or! Seulement, le 100 mètres a été planifié un dimanche matin. Il dit, mais moi le dimanche matin, moi je cours pour Dieu. Je ne participerai pas à la course de 100 mètres parce que c'est un dimanche matin. Alors ça fait scandale, hein, la presse s'est emparée, etc. de ça. Et il y a un envoyé du roi George V qui est venu le trouver. On parle de la famille royale anglaise aujourd'hui. Hein, voilà. Et donc, qui lui dit, mais Eric, monsieur Liddell, vous courez pour le Royaume-Uni et vous courez pour le roi. Il a répondu, et ça fait les grands titres de tous les journaux, Dieu avant le roi. Dieu avant le roi. Voilà quelqu'un dont l'ambition, c'était de courir pour Jésus. Amen. Ça ne l'empêchait pas de participer aux Jeux Olympiques. Mais pas à n'importe quel prix. On peut dire, oh, il aurait pu trouver un compromis, le reste du temps, il court pour Jésus, ce dimanche-là, matin, bon, ouais, écoute. Eh bien, ce dimanche-là, matin, puisque c'était aussi un prédicateur laïque, il est allé porter la parole de Dieu dans l'église écossaise de Paris. C'est lui qui a prêché pendant que la course se déroulait. Et il s'est inscrit sur deux autres courses qui n'étaient pas sa spécialité. C'était le 400 mètres et puis une autre course, le 200 mètres, 400 et 200 mètres. Mais c'était pas son truc. Mais au moins, ça ne tombait pas un dimanche. Alors, ça fait scandale, etc. Jusqu'à ce que, contre toute attente, il remporte la médaille d'or du 400 mètres. Et puis la médaille de bronze du 200 mètres. Il a couru pour Christ. Et juste au départ de la course du 400 mètres, il y a un de ses concurrents américains, qui était un chrétien également et qui lui a glissé un petit papier dans la main, qui cite un verset de 1 Samuel, « J'honorerai ceux qui m'honorent. » Juste avant le démarrage, il a remporté le 400 mètres. Il a couru pour Dieu. L'année suivante, il s'est embarqué pour la Chine comme missionnaire. Après sa victoire aux Jeux Olympiques, il est devenu missionnaire en Chine. Il y est resté pendant 18 ans. Il est devenu pasteur 8 ans après sa victoire. Il a été consacré pasteur. Et puis il y a eu la guerre, il a été fait prisonnier dans un camp japonais et il est mort dans un camp japonais d'une tumeur au cerveau. Mais jusqu'au bout, y compris dans ce camp de prisonnier, il a marché pour Christ et rayonné pour Christ. Amen. Voilà ce qui nous aide à comprendre l'état d'esprit de Paul, l'état d'esprit auquel il invite l'église de Philippe. Regardez, c'est au verset 14 et 15. Il dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Regardez le verset 15. « Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. » Il dit voilà. Ce qui doit nous unir dans l'Église, c'est ce même état d'esprit. Ayons cette même pensée. Et il dit ensuite, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Il dit, on peut être pas tout à fait d'accord sur d'autres questions théologiques. Mais il dit, il y a une chose qui doit nous unir, nous réunir profondément. C'est que nous soyons passés par la conversion de nos rêves. Par la conversion du sens de notre existence, de pourquoi on court. Et la définition, dit-il, d'un homme fait, c'est un chrétien solide, un chrétien accompli, il dit, c'est celui qui a cette même pensée. C'est celui qui a adopté cet état d'esprit, qui est citoyen des cieux avant tout, et qui court pour le ciel, pas pour la terre. Et il dit, ce qui doit nous unir, c'est de courir pour le ciel. Ayons cette même pensée. S'il y a une chose qui doit nous unir, c'est ça. Alors, est-ce que tous les chrétiens sont passés par cette conversion? Paul pose la question. Il invite les Philippiens à rentrer dans cet état d'esprit. Regardez une belle expression. C'est celle du verset 12. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Cette expression, j'ai été saisi par Jésus-Christ, ça c'est le démarrage. Paul il dit, moi c'est vrai, dans ma vie d'être humain, coupé de Dieu, ennemi de Dieu, j'étais perdu. Oh, je faisais partie du gratin, et pendant tout un temps, j'ai eu le sentiment que voilà, ma quête de bonheur et ma quête de sens à mon existence. Mais en fait, non. Et au bout d'un moment, j'ai compris que j'étais perdu. Perdu. Vous pouvez faire le tour de tous ceux qui étaient hier invités au mariage de Harry et Meghan. Malgré la réussite sociale, tout ce qu'on veut, combien se sentent profondément perdus? Parce que le sens de l'existence et la joie, eh bien, tout ce n'est pas un noyau stable. Ça les fuit, ça ne satisfait pas. Et c'est pour ça que nous avons étudié vendredi soir le livre de l'Ecclésiaste. D'accord? Le livre de l'Ecclésiaste. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez le relire. Voilà un homme en quête de bonheur et en quête de sens à son existence et qui va tout essayer. Et sa conclusion systématique, c'est vanité des vanités, tout des vanités. Je n'aboutis à rien. Je réussis tout ce que je fais, mais ça ne remplit pas mon cœur, ou que passagèrement. Parce qu'il était coupé de Dieu. Parce qu'il avait mis Dieu un peu à l'écart de sa vie. Et quand on remet Dieu au centre, alors on peut passer par la conversion de tout ça. Alors oui, Paul dit, moi, c'est Christ qui m'a saisi. J'étais en train de me noyer, j'ai crié au secours, j'ai tendu la main. Et Christ m'a saisi. Il m'a saisi par la main. Et il m'a sorti. Il m'a sauvé. Est-ce qu'on ne dit pas il m'a sauvé? Eh oui. J'étais perdu, j'étais en perdition, j'ai tendu la main. J'étais saisi par Christ. Il m'a tiré. Il m'a sauvé. Il m'a pardonné mes péchés. Il m'a donné la vie éternelle. Il a fait de moi un être nouveau. Mais est-ce que ça s'arrête là? Ça, c'est la question. Qu'est-ce que Paul, il dit? Oh, moi, j'ai été saisi par Christ. Mais du coup, maintenant, c'est moi qui vais tâcher de le saisir. Il dit, je cours pour tâcher de le saisir. Le prix, la perfection. Il dit, moi, je suis dans cette dynamique où je suis un chrétien engagé dans cette course pour tâcher moi aussi. Christ m'a saisi, moi aussi je cours pour le saisir. Je suis citoyen du ciel. Mais on peut être un chrétien qui dit, oh merci Seigneur, tu m'as saisi par la main, c'est formidable. Tu restes sur le banc de touche, tu ne te mets pas à courir pour saisir Christ à ton tour. Écoute, moi, Christ m'a saisi, ça me suffit. Hein. Moi, ça me suffit, Christ m'a saisi. Et puis écoute, j'ai beaucoup de choses à saisir dans les choses de la terre, en fait. Ah, et les deux états d'esprit ne sont pas compatibles. Sinon, j'ai pas dit qu'on ne pouvait pas devenir médaillé d'or. J'ai pas dit qu'on ne pouvait pas devenir un artiste célèbre. Mais je parle de l'état d'esprit, de ce après quoi on met son énergie, toute son ambition, ses rêves. Les deux ne sont pas compatibles. Paul, il dit, il a fallu que je renonce à tout. J'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à mes rêves de la terre. Après, si les joies satellitaires sont là parce que Dieu le permet, amen, je prends, hein. Mais si elles n'y sont pas là, ben, de toute façon, moi, mon rêve, c'est de saisir Christ, c'est de courir pour lui. Donc, j'ai renoncé à tout. Les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Je regarde même toutes choses comme une perte. J'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue. Et le mot qui est utilisé, comme des déchets, comme des ordures, comme des excréments. C'est pour vous dire la valeur des choses. En fait, c'est rien. Ma carrière, machin, médaillé d'or. Vous souvenez-vous du nom de celui qui a remporté le 100 mètres à la place de Eric Liddell, vous, en 1924, vous savez qui c'est ? Non, moi non plus. Voilà, c'est passager, c'est... Enfin, hein ? Alors, oui, je peux être un chrétien qui a été saisi par Christ, qui est sauvé, mais qui ne passe pas par la conversion du sens de mon existence et qui reste à plus ou moins à courir pour les choses de la terre, pour les joies satellitaires. Et c'est tellement dommage. Et nous avons un curseur. Là, nous avons ceux dont il parle en disant ils sont carrément ennemis de la croix de Christ. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ça veut dire, le ventre, c'est l'appétit, les appétits. Moi, ce qui compte, ce sont mes appétits, mes envies. Ce que j'ai envie, c'est ça qui compte dans ma vie. Voilà. Être rassasié et rassasié. Rassasié de plaisir, de voyage, d'art, de bonne bouffe, de ce qu'on veut. Moi, ce qui compte, c'est mon ventre, c'est mes appétits, c'est ce que j'ai envie. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Et c'est en parfait contraste avec être citoyen du ciel. Mais nous sommes citoyens des cieux. Et puis, il y a l'entre-deux. Alors, sur un curseur de 0 à 10... Le Seigneur nous demande d'essayer de nous situer. Tu te situes où dans ta course ? Tu es à 1 sur 10, 2 sur 10, 5 sur 10, 6 sur 10. Et ça, c'est une progression. Paul dit, quand on devient chrétien, on apprend à augmenter le curseur. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit au verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Il dit, moi, je ne suis pas encore au 10, tu vois. Je suis peut-être à 8. Mais si je suis à 8, ça veut dire qu'il y a 2 où je cours encore pour les choses de la terre. Bon, il dit, je suis dans ce processus de progrès. Et je dis, j'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Moi, j'ai cet état d'esprit. Alors, peut-être nous sommes à 2. Ok, il faut bien démarrer. Ou à 1. Ce qui compte, il nous dit, c'est ayons cette même pensée. Ayons cette même pensée. C'est ça qui compte. C'est que vraiment, je me mette dans cet état d'esprit de pensée où je cours pour Jésus-Christ et où je veux tâcher de saisir et d'aller vers toujours plus pour Jésus. Et c'est tellement dommage si je reste un chrétien qui dit non, moi Christ m'a saisi et ça me suffit. Amen, je suis heureux que Christ m'ait saisi. Puis voilà, tellement dommage, tellement épuisant, tellement nul, tellement nul. C'est dommage, hein, en fait, on se prive de quelque chose de merveilleux. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Regardez le verset 8. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de quoi ? Regardez cette expression. De l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Il dit, tu vois, quand tu comprends l'excellence qu'il y a de connaître Jésus, et plus tu comprends l'excellence, et plus dans la balance, les joies satellitaires à amalgamer, les autres sens qu'on peut trouver à son existence, les rêves de la terre, ça fait pas le poids. Tu mets ça dans la balance, c'est sûr que avant il n'y avait pas Christ. J'ignorais l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Alors, ce qui pesait, ce qui comptait, c'était avoir pour Dieu mon ventre et puis penser aux choses de la terre, ma foi, qu'est-ce que tu veux que j'aie de plus ? Mais quand tu comprends, quand tu découvres l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, hop, la balance change. Et ça, ça pèse rien. Les choses de la terre, en fait, ça pèse rien, dit Paul. Au point où plus tu comprends ça, et plus tu dis, en fait, c'est des déchets, ça, c'est des ordures, c'est de la boue. Vous voulez conserver de la boue chez vous ? Je veux dire, qui a envie de conserver de la boue dans ses poches ? Personne ? Ou sous ses chaussures, ou sous ses baskets, puisqu'on parle de course ? Personne. Mais ça, c'est possible que quand tu comprends, et que tu découvres, et que tu progresses dans l'excellence de la connaissance de Christ. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dira, et terminera son épître en disant, « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, vous allez dire, est-ce que c'est compliqué à vivre tout ça ? Est-ce que c'est compliqué à vivre ? Ça dépend. Et là, nous sommes dans le sujet du légalisme, dans cet épître, dans ce chapitre. Ça dépend. Ça dépend si on se fait une règle. Oui, le chrétien, que nous disait le chapitre 2 ? Au lieu de chercher votre propre intérêt, cherchez ceux des autres. Vous vous souvenez de ça ? D'accord. Le christianisme, il dit, tu cherches plus ton propre intérêt, tu cherches ceux des autres. Ça fait grincer des dents, hein ? Ça fait grincer des dents. Pourquoi ? Parce que si on le vit de manière légaliste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, vos intérêts et toutes les joies satellitaires que vous aviez amalgamées pour former le noyau dur, en fait, ça c'est votre trésor, en fait, c'est ça. C'est pas la joie de Christ, c'est ça. Et du coup, on est en train de vous dire, ton trésor, tu vas le lâcher. Et tu vas penser aux intérêts des autres au lieu de penser aux tiens. Et là, on se met à pleurer, on dit, alors qu'est-ce qui me reste ? Alors moi, je vais m'investir pour les autres, je vais penser aux intérêts des autres, mais qui va s'occuper de mes intérêts ? Qui va... Alors si c'est plus moi qui recherche et qui essaye d'être heureux dans la vie, et... Alors on me demande le sacrifice, quoi. A plus qu'à se tirer une balle dans la tête, hein. On me demande de lâcher cet ersatz de noyau dur de la joie que j'ai réussi à avoir en pensant à moi. On me dit maintenant faut penser aux autres et tu arrêtes de penser à toi. Vous voyez un miracle qui se produit. Le Seigneur ne nous demande pas le vide. Comme on disait tout à l'heure, notre âme ou la nature a horreur du vide. C'est sûr que si on demande à quelqu'un d'enlever et de se retrouver vide au niveau noyau dur de joie, l'existence de chrétien va être dure, hein. Mais le Seigneur nous fait un miracle. Il dit, attends, tu sais quoi? Ça va marcher. Parce que tu peux le lâcher et moi je viens prendre la place. Je viens remplir le vide. C'est ça la conversion. Je vais venir remplir tes besoins en joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et tu vas devenir libre, libre de chercher les intérêts des autres plutôt que les tiens, parce que les tiens, ils sont satisfaits en moi. Ce noyau dur de la joie, tu l'auras trouvé en moi. C'est moi qui assure ça. Et toi, tu es libre. Le sens de ton existence, laisse-moi donner sens à ta vie, à ton existence. Cours pour moi et tu n'auras plus besoin de courir pour le reste. Si tu cours pour moi et que c'est ça le rêve de ta vie, l'ambition de ta vie, tu n'auras pas besoin de t'épuiser à courir pour le reste. Libre. Et le Seigneur nous rend vraiment libres parce que cette quête du bonheur et du sens de l'existence, c'est quelque chose de profondément épuisant. Épuisant pour l'être humain à toujours essayer de conserver le bonheur qui lui échappe. Quelqu'un disait, le bonheur, c'est comme un puzzle, il en manque toujours un morceau. Et c'est épuisant. Et le Seigneur veut nous libérer. Vous avez été affranchis en Jésus-Christ. Amen. Alors, vivons ce miracle. Et toutes les joies satellitaires trouveront leur juste place. Je suis certain qu'Eric Liddell, le lendemain, quand il a remporté le 400 mètres, il était heureux. Ça a complété sa joie qu'il avait en Jésus-Christ. Si. Heureux, très heureux d'avoir gagné. Mais s'il n'avait pas gagné, de toute façon, il était heureux de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Tout simplement. Et le Seigneur nous fait quand même ses cadeaux. Alors, je terminerai en disant que cette liberté, c'est une liberté à maintenir. C'est une liberté pour laquelle combattre. Comme dit l'Épître aux Galates, vous pouvez regarder Galates 5, verset 1. Galates 5, 1. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ça veut dire quoi? Paul dit... Philippiens, on revient à Philippiens 3. Il dit, je fais une chose. C'est le verset 13. Je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que les choses qui sont en arrière, ben, elles veulent revenir sur le devant. C'est ça le problème. Les choses qui sont en arrière veulent revenir sur le devant. C'est quoi les choses qui sont en arrière? Eh bien, c'est toutes les joies satellitaires duquel je faisais un noyau dur très instable. Il dit ça, j'ai converti ça, ça c'est fini. Oui, mais ces joies satellitaires, dans la vie du chrétien, elles aimeraient bien pousser la joie du Seigneur dehors. Allez, pousse-toi là, le noyau stable de la joie du Seigneur, enlève-toi. Et elle tâche de redevenir le faux noyau dur de la joie d'un chrétien. Alors là, c'est terrible. Pareil pour le sens de notre existence. Avant, le sens de mon existence, c'était ceci, c'était cela, mes rêves, c'était ceci, mes ambitions, pourquoi je cours, pourquoi je me lève le matin, pourquoi je vis. J'ai découvert l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Maintenant, je cours pour Jésus-Christ. Parce que ça, c'est excellent. Ouais. Ouais, mais les choses qui étaient avant, Et Paul dit, ça c'était, comme dit la pub, ça c'était avant. Mais les choses qui sont en arrière, elles veulent revenir sur le devant. Et j'ai ce combat de... d'autres buts de l'existence qui veulent se refaufiler et petit à petit reprendre leur place. Pourquoi je cours ? Si bien qu'à la fin, je ne sais plus, je me réveille et puis je m'aperçois que je ne cours plus tellement pour Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que je cours pour autre chose, parce que c'est revenu, parce que les choses qui étaient en arrière sont revenues sur le devant. Et Paul, il dit, moi, oubliant les choses qui sont en arrière et me portant sur ce qui est en avant, alors le terme c'est me portant avec effort, c'est une tension forte. Il dit voilà, je regarde pas l'arrière et je regarde en avant. Les choses de la terre, je les oublie, je les empêche de revenir. Non, moi je me focalise sur le fait que je suis citoyen des cieux. Parce que l'arrière essaye de me rattraper. Les choses qui sont en arrière aimeraient bien que je me retourne. Et puis vous savez que courir en vous retournant, c'est pas bon ça. Hein ? C'est pas bon, hein ? Non. Eh oui. Alors, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez ferme. Ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Nous sommes libres, libres même de chercher les intérêts des autres plutôt que les nôtres. Ahurissant. Pourquoi ? Lorsque le noyau dur de la joie de Christ, il est là. Oui, j'ai cette liberté. Oui. J'ai plus besoin de courir à droite à gauche pour assurer mon propre bonheur et ma propre joie. Non, je peux être dans une prison et chanter les louanges du Seigneur. Voyez-vous, Paul dit, oui, c'est possible. Oui, je suis libre parce que j'ai plus besoin de faux sens à mon existence. Ça, c'était avant. Alors, oui, c'est un combat. Demeurons fermes dans ce combat. Frères et sœurs, ce matin, le Seigneur nous invite à faire le point. Parce qu'il dit, s'il y a une chose dans l'Église sur laquelle on doit être unis, nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Il y a d'autres choses. Mais ça, c'est fondamental. Ça, c'est fondamental. On doit être des frères et des sœurs animés du même état d'esprit, de la même pensée, courir pour Jésus. Amen. Alors que nous puissions le vivre. Prions. Seigneur, on veut te remercier de cette liberté que tu nous proposes. Tu vois que nous ne l'avons peut-être pas encore saisie, ou nous ne l'avons saisie que partiellement. Comme Paul, qui dit « je ne pense pas encore l'avoir saisie, mais pas jusqu'à la perfection ». Nous, c'est pareil, Seigneur. Fais-nous progresser. Que nous puissions toujours plus avoir cet état d'esprit d'être citoyen des cieux, de courir pour toi. Que ce soit notre rêve. Seigneur, que nous puissions vraiment faire cette conversion de nos rêves de la terre, pour le rêve du ciel, pour le rêve en Jésus-Christ. Merci parce que tu l'accompagnes de la joie. C'est ce miracle que tu fais, Seigneur. Être le noyau dur de notre joie en toutes circonstances. Merci pour cela. Merci pour cette liberté. Que nous puissions nous réjouir d'avoir été saisis par Jésus-Christ. Et que nous puissions vraiment aspirer, désirer, à notre tour, tâcher de le saisir. Et c'est au nom de Jésus que nous prions, notre Dieu. Amen.